Peut-être que dans un proche avenir, une nouvelle manchette du journal, qui aura d'ailleurs l'avantage de remplacer un blanc qui n'est pas très harmonieux, puisse prendre la place de ce slogan qui a été ôté récemment. Donc, je passe maintenant au plan international, parce que sur ce plan international, il y a aussi d'autres engagements, qui sont principalement les mêmes que ceux que nous avons développés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une troisième voie, le mot y est, une troisième voie qui ne soit ni le libéralisme, ni le marxisme. Et c'est vers cette troisième voie, je pense, que d'après ce qui a été dit aussi ici aujourd'hui, nous pouvons nous orienter. Le cas des élections européennes, c'est un autre sujet extrêmement délicat et difficile. Il est peu vraisemblable, au point où nous en sommes, que le mode de scrutin soit changé. C'est-à-dire que nous allons nous retrouver en 1984 avec le même problème que celui des élections antérieures. Liste française, nationale, de 81 noms à la proportionnelle, mais avec aussi toutes les conséquences que cela implique, c'est-à-dire la responsabilité financière des listes et des candidats dont les listes n'auraient pas obtenu 5% des voix, ce qui représente peut-être par candidat une somme de 20 à 30 millions de francs anciens. Alors, conséquence de cette situation, il est impossible à une seule région de se présenter seule. L'expérience a été tentée la première fois grâce à Jean-Hélène Dernallier et à la Bretagne Europe. Il a été impossible d'aller jusqu'au bout, faute de ressources financières. Et faute aussi du fait que la liste était presque exclusivement bretonne et ne pouvait donc avoir de résonance pratique sur le terrain dans d'autres régions ou d'autres nations. Il est donc nécessaire d'essayer de s'entendre. Il faut se souvenir que le but est pragmatique, il n'est pas idéologique. Il est d'avoir une représentation des régions ou des nations véritables au Parlement européen. Il faut donc que ceux qui y participent soient très clairs sur leurs objectifs et sur les nécessités. Il faut peut-être laisser un peu de côté les préférences idéologiques, si nous voulons justement briser le monopole idéologique de la bande des quatre. Et j'ai été heureux d'entendre à la réunion de Corse de l'Alliance Libre qui s'est tenue il y a une huitaine de jours, la déclaration du parti occitan Volenvir, Al País, qui avait eu des contacts avec l'UDB en vue de la présentation d'une candidature unique aux élections présidentielles, mouvement socialiste occitan, Volenvir, Al País, nous a dit tout de suite que si les difficultés idéologiques il y a, elles ne viendraient pas d'eux. Et que par conséquent, il devait y avoir des différences idéologiques dans chaque région ou dans chaque nation, mais pas de leur côté vis-à-vis des autres régions. Là encore, se posera bien sûr la question de l'alliance possible ou impossible avec d'autres formations bretonnes. Ceci m'amène donc très directement, et ça dépasse peut-être un peu l'attribution des affaires étrangères, à poser la question de nos rapports avec les autres formations politiques bretonnes. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls. Et j'avoue que je suis un peu étonné, déçu parfois, de voir que dans l'état de faiblesse de nos forces, la Bretagne puisse se payer le luxe de voir éclore en 6 mois 3 mouvements nationalistes bretons. Sans parler du DB, que je ne classe pas comme nationaliste, mais simplement à vocation nationaliste selon leurs propres termes. sans compter aussi le mouvement culturel qui comprend de nombreux militants. Je voudrais vous rappeler ici que nous sommes à quelques jours près. Nous célébrons le 25e anniversaire de la fondation du MOB. Il y a tout juste 25 ans, ou presque à quelques jours près, que ce mouvement s'est fondé, qui a été à l'origine de la reprise du mouvement nationaliste ou national en Bretagne. Nous étions environ 200. Nous sommes aujourd'hui, mettons, 30 ou 40 ou 50. Il est vrai qu'il y a 4 mouvements bretons. Donc, par conséquent, si nous donnons le même chiffre à chacun, ça fait à peu près le compte. Mais ça ne fait pas plus. Alors là, il faut que nous fassions une sorte d'examen de conscience. Et penser que si nous sommes associés, nous pourrons faire beaucoup, mais que si nous sommes divisés, nous ferons beaucoup moins. J'assignerai au POBL et aux autres mouvements nationalistes, dans l'état actuel de nos forces et de la situation européenne, un but beaucoup plus pragmatique qu'idéologique. Il faut comprendre qu'il y a une base militante qui est nécessaire. Et donc l'élargissement est essentiel. Et la clé de cet élargissement, c'est la structuration locale. Personnellement, je m'étais refusé à fonder le MOB s'il n'avait pas été basé d'abord sur une structuration locale. Et c'est parce qu'il y avait 15 ou 20 sections locales qui fonctionnaient, à l'époque déjà, que le MOB a pu se fonder en 1957. Je dois vous dire aussi que cette action que je mène sur le plan international en votre nom, est probablement plus ambitieuse que ne le voudrait l'état même de nos forces. Lorsque je suis en contact avec des partis nationalistes qui nous demandent combien avez-vous de députés, combien avez-vous de représentants régionaux, combien avez-vous de conseillers municipaux, je suis très embarrassé pour répondre. Il faut que vous mettiez cela un peu au rang de vos principales préoccupations. Lorsque nous avons fondé le Bureau des Nations européennes sans État en 1975, nous avons pu dire que nous avions présenté des candidats aux élections générales dans 30 des circonscriptions bretonnes et que nous avions recueilli en tant que Parti national breton 2,6% des voix. Ce n'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose. Maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Rien. Alors là, c'est un problème sur lequel je vous demande de réfléchir et auquel je vous demande de donner une réponse. C'est très difficile, peut-être, de faire des militants, mais il n'est pas difficile d'essayer de fonder des structures locales. Il y a une culture politique qui est nécessaire à tout militant. Cette culture, ils peuvent la trouver dans nombre de nos publications. Je ne parle pas seulement celle du POVL ou celle de Strolladarvro. Il y a les Cahiers de l'Avenir, il y a des mouvements fédéralistes qui ont des publications qui forment le militant idéologiquement et pratiquement. Il faut donc que nous aboutissions à une sorte de structuration, à une sorte de remontage, si je peux employer ce terme, de nos forces militantes. Alors, comment arriver à cela? Bien, je suggérais personnellement au comité directeur un certain nombre de propositions pratiques. Je pense qu'il faut que nous pensions à fonder, comme cela s'est fait en Corse, une sorte de comité de concertation des mouvements nationalistes. Il y a en Corse, en dehors de l'UPC, d'autres mouvements, certains proches du mouvement clandestin, d'autres proches du mouvement socialiste, mais qui ont la sagesse de se rencontrer et d'échanger leurs idées et de faire en commun une politique concrète sur des points précis, sur des points très clairs. Et il y a sur les murs de Corse des slogans CCN, ce qui veut dire Comité de Concertation Nationaliste, qui font pendant à ceux de l'UPC, lesquels restent malgré tout prédominants. Donc, première chose, essayer de fonder des comités de concertation nationaliste, de façon à ce que des actions de propagande puissent être menées en commun, sans pour cela porter, au moins au début, préjudice à l'indépendance que veulent conserver chacun de ces mouvements sur le plan idéologique ou sur le plan pratique. Ensuite, je voudrais aussi suggérer l'élargissement de ces consultations régionales pour aboutir à la création d'une liste de candidats à l'Assemblée régionale. Pour ce problème, il faut continuer ce qui a été entrepris par Bretagne Europe, continuer à les soutenir dans leurs efforts, mais ne pas perdre de vue que l'alternative sera entre probablement une liste régionale, liste apolitique, ou une liste nationaliste. Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'il soit envisageable de faire une liste commune avec l'UDB qui, elle, certainement, présentera une liste homogène, UDBiste, aux élections régionales. Sur le plan des élections européennes, le problème est un peu différent. Il serait, à mon avis, difficile de la faire sans aussi essayer de prendre contact avec l'UDB sur le plan breton, et aussi ridicule de la faire sans prendre contact avec nos alliés de l'Alliance libre européenne, puisqu'ils sont représentés dans les différentes nations ou régions de l'Hexagone français. Je dois dire donc que cette liste européenne doit être aussi une de nos préoccupations, malgré les difficultés financières et autres que cela peut présenter. Tout cela, bien sûr, est simple en théorie, c'est très difficile en pratique. Il ne faut pas se le dissimuler. Nous avons toujours affaire aux pas assez, aux à quoi bon. Les à quoi bon, vous savez très bien ce que c'est, ce sont les gens qui sont collés devant la télévision, la petite promenade le dimanche, et qui ne s'intéressent pas à autre chose qu'à cela, donc à quoi bon? À quoi bon se battre? À quoi bon faire ceci? À quoi bon faire cela? Et là, c'est un phénomène général, il nous faut en tenir compte. Mais il y a aussi les pas assez, qui nous disent, vous vous perdez dans des actions de détail. Ce n'est pas ça qu'il faut faire. Ce sont des choses qui n'ont pas d'intérêt. Obtenir quoi? Un CAPES de Breton? Obtenir un siège à l'Assemblée régionale? Non, non, c'est pas possible. Nous voulons tout en même temps. Et qu'est-ce que c'est que ce tout? Ben, c'est l'indépendance. Alors, je dis que ceci masque un peu notre impuissance. C'est très joli de dire que nous ne le ferons pas parce que théoriquement, nous ne sommes pas d'accord. C'est très bien de préconiser l'abstention aux élections, mais ça ne va pas vous mener loin. Et à ceux qui disent, nous voulons l'indépendance et pas la concession et pas la conquête progressive des institutions qui nous donneront l'autonomie, je réponds très simplement, mais alors, où est votre armée? Il n'y a pas d'exemple qu'il y ait un peuple soumis à l'impérialisme français qui ait pu secouer le joug de cet impérialisme sans avoir affaire à la guérilla, à la lutte nationale armée. Alors je leur demande, où sont vos généraux? Où sont vos mitrailleuses? Croyez-vous que vous puissiez mener cette lutte avec succès si vous n'avez pas ces moyens? Et ceci m'en mène à vous dire que la tâche est très dure parce que nous sommes malheureusement devant une situation qui nous permet de dire que nous n'obtiendrons pas tout d'un seul coup. C'est impossible. Il y a une longue progression, patiente, douloureuse parfois, pleine d'épreuves, un chemin difficile, et il faut que nous éliminions cette passivité, ce velléitarisme qui a été très longtemps et qui est toujours celui des Bretons. Il faut du caractère, il faut du courage, il ne faut pas avoir peur des risques, il faut que chacun de nous fasse son examen de conscience. Qu'est-ce que c'est qu'un militant? C'est beaucoup de choses qu'on leur demande aux militants. Il faut qu'un militant ait, ben, si vous voulez, il faut qu'un militant ait la rigidité d'un montausier. Il faut qu'il ait aussi le militantisme inlassable d'un Clavelli. Il faut qu'il ait aussi la dialectique et les connaissances d'un Tilly. Et peut-être aussi, laissez-moi le dire, la persévérance d'un Fouéré. Ça fait beaucoup de choses à réunir sur le même homme. Mais il faut que nous y parvenions. Parce que il faut cesser de philosopher. Il faut agir, et nous sommes condamnés par la disproportion des forces en présence à une politique que j'appellerais l'étapisme, c'est-à-dire la construction par étapes de structures nouvelles, d'arracher au pouvoir des concessions successives, dont l'une peut paraître mince, mais dont l'addition finit par faire quelque chose de grand. C'est cela la leçon, je crois, qu'il faut que nous dégagions de ce que nous devons faire, de ce congrès. Il faut que nous nous habituions aux changements importants qui ont été ceux des institutions et ceux de la politique depuis la fin de la dernière guerre mondiale. Il faut que nous nous habituions à cette nouvelle forme de démocratie que j'appellerais la démocratie cathodique, parce qu'elle est liée au développement de la télévision. Et cathode, c'est un terme télévisé. C'est difficile, mais il faut que nous y arrivions. Et si nous arrivons justement, grâce à cette démocratie cathodique, à conquérir une place dans les programmes de radio et de télévision, nous aurons déjà fait un pas important. Si nous arrivons à conquérir une place aussi minime soit-elle au sein des assemblées régionales, nous aurons fait un autre pas important. Et ce n'est qu'ainsi que se construira petit à petit la Bretagne autonome et libre que nous désirons. Tout cela, conquête des moyens audiovisuels, conquête de l'école, conquête de sièges dans les assemblées, tout cela, ce sont des moyens, les seuls. Ils sont durs, ils sont difficiles, il faut s'y attacher. Mais dans les circonstances actuelles, je crois que nous ne pouvons pas éliminer cet étapisme. Il faut nous y résigner. Et c'est donc une leçon de courage, une leçon de patience qui doit être la conclusion que nous devons dégager de nos assises d'aujourd'hui. Dans toutes les circonstances, rien ne vaut la persévérance, la continuité, le militantisme. Si ces qualités-là n'existent pas, autant dire que nous perdons notre temps. Merci.